ce chapitre 2 de la Genèse. Nous allons reprendre la lecture à partir du verset 15 et jusqu'au verset 25, la fin du chapitre. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit, ou le plaça, dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu façonna une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme car elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, sans en éprouver aucune honte. Voilà notre lecture pour ce matin. Il y aura au moins deux prédications sur ce passage, afin d'aborder ensemble deux vérités fondamentales sur nos origines. La première, celle que nous allons voir ce matin, les versets 15 à 17, donc le début du texte que nous avons lu, nous parle du fait que, en tant qu'être humain, nous sommes liés à Dieu, dans une relation verticale. Et puis, la prochaine fois, nous verrons ensemble comment nous sommes liés les uns aux autres, dans une relation horizontale. Ce matin, donc, nous sommes liés à Dieu. Et dans les versets 15 à 17, sur lesquels je vais me concentrer ce matin, j'aimerais aborder quatre choses essentielles avec vous. Nous allons voir que dans ces trois versets, il y a premièrement une création de poste, deuxièmement un contrat de travail, troisièmement une petite clause en bas avec des petits caractères, vous savez, et quatrièmement que c'est un poste masculin, recrute homme. D'abord une création de poste. Dieu attribue un rôle à l'être humain, une mission de travail, cultiver et garder le jardin. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu place l'homme, établit l'homme dans le jardin, pour le cultiver et le garder. Ce n'est pas pour qu'il se tourne les pouces ou qu'il bronze au soleil. Le texte en hébreu dit littéralement « pour le servir » et le garder, le protéger, le surveiller, veiller sur. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est aussi en lien avec ce que nous avons déjà vu dans les précédentes prédications. Ici, au verset 15, Dieu installe officiellement son représentant, son image, son idole, comme nous l'avions vu, dans ce petit coin de paradis, dont nous avons parlé la dernière fois, pour que l'homme exerce un service et prenne soin du jardin. Voilà l'origine de l'activité professionnelle humaine, du travail. C'est un service qui consiste à explorer, développer, préserver l'environnement, à en prendre soin. Alors, qui dit mission, travail, dit aussi responsabilité. L'homme se voit confier une tâche à accomplir et donc la responsabilité de rendre compte à celui qui lui confie cette tâche. C'est Dieu qui le place là pour cette mission-là. Alors, dans les mythes de création du Proche-Orient ancien, mais aussi par exemple dans la mythologie grecque, pourquoi l'homme est-il créé par les dieux ? Eh bien, pour travailler à leur place et les nourrir. Rien de tout ça dans le texte biblique. Premièrement, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de l'être humain pour exister, pour se nourrir et pour s'occuper. Dieu n'a pas besoin de nous. Nous ne sommes pas d'abord créés pour notre utilité, mais pour représenter Dieu sur terre. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, le travail humain qui est attendu de la part de Dieu est un service. La meilleure manière de représenter Dieu, la seule en fait, c'est d'être un serviteur. Troisièmement, dans notre texte ici, l'homme travaille pour lui-même et dans le respect de son environnement. Il ne travaille pas pour nourrir Dieu ou pour faire plaisir à Dieu. Il travaille pour lui-même et au service de ce jardin dans lequel Dieu l'a placé. L'homme ne travaille pas comme un esclave d'un Dieu paresseux dont il faudrait satisfaire les exigences, mais c'est lui, l'homme, qui bénéficie de ce qu'il produit dans le respect de la création. Qu'est-ce que cela vous inspire concernant votre propre manière de considérer votre travail aujourd'hui? Alors, on verra au chapitre 3 de la Genèse que le péché transforme la relation de l'homme au travail. Et pour nous qui vivons en France aujourd'hui, il est très tentant de faire un copier-coller des mythes de nos origines sur nos relations professionnelles. Par exemple, il est tentant de nous représenter notre patron comme quelqu'un qui nous fait travailler comme des esclaves afin de s'enrichir personnellement et sans trop travailler. Comme les dieux de la mythologie grecque qui ont créé les hommes pour ne pas trop se fatiguer. Mais le texte de la Genèse conteste cette manière de voir et remet en question cette mentalité. Genèse 2 nous rappelle, ou nous apprend peut-être ce matin, qu'au commencement, le travail humain est considéré par Dieu comme un service dont l'homme est le premier bénéficiaire et qui préserve l'environnement. Alors cela nous fait peut-être prendre conscience de l'écart qui existe aujourd'hui entre la mentalité biblique et la mentalité qui domine le monde professionnel dans notre société ou dans notre monde. Qu'est-ce qui domine notre monde professionnel aujourd'hui? Ce n'est pas le service, mais l'asservissement de la planète et des autres, des salariés quand ils sont payés. Ce qui caractérise notre monde professionnel, c'est la course au profit. C'est la transformation du service en esclavage. Et si vous reconsidériez votre semaine qui vient là, votre travail de cette semaine, comme l'exercice d'un service qui vous est confié par Dieu, pour en bénéficier vous-même et pour prendre soin de la création. Je crois que cela pourrait changer votre manière de vivre cette semaine qui démarre. Dieu a donc créé un poste pour l'homme et il passe aussi avec lui un contrat de travail. Verset 16 et 17. Relisons ensemble ces deux versets. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance ou du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le contrat divin comporte deux clauses. La première, tu dois, c'est même un commandement, profiter de tous les arbres du jardin. On en a parlé déjà la dernière fois. La formule en hébreu dit littéralement « manger, tu mangeras ». C'est une façon répétitive d'insister et de dire « c'est sûr, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire ». Manger, tu mangeras. Il faut que tu manges de tout. Je te le donne. Vas-y, lâche-toi. Donc Dieu attend de l'homme qu'il jouisse, qu'il profite de ce jardin. Pour lui-même. C'est un commandement de Dieu. Sauf un arbre. C'est la deuxième clause. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'en mange pas, sinon le jour où tu en manges, tu mourras. Et ces deux clauses, manger de tout les arbres, sauf un. Ces deux clauses sont représentées par deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'aimerais que nous regardions ensemble d'un peu plus près ces deux arbres. En particulier l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que l'arbre de vie, on en a déjà parlé la dernière fois. Commençons quand même par l'arbre de vie. Dieu place l'arbre de vie, c'est dans les versets qui précèdent notre texte d'aujourd'hui, au centre du jardin. Dans la pensée juive, ce qui est au centre, c'est ce qui est le plus important. L'arbre de vie est au centre, là où Dieu donne la vie en abondance. Et cet arbre de vie est accessible. Rien dans le texte ne nous dit qu'il est interdit. Le seul arbre qui soit interdit, c'est l'arbre de la connaissance ou du choix entre le bien et le mal. Et cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est pas au centre du jardin. C'est l'arbre de vie, symbole de la vie qui est au centre. Qu'est-ce donc alors que ce fameux, ce célèbre arbre de la connaissance du bien et du mal? En fait, c'est très simple et très facile à comprendre. Écoutez bien. C'est l'arbre qui garantit la liberté et l'identité de l'homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre qui garantit la liberté et l'identité de l'homme. C'est exactement l'inverse de ce que nous imaginons habituellement, parce que nous nous sommes, nous aussi, laissés séduire par le serpent qui nous fait croire que Dieu interdit à l'homme une connaissance qu'il se garde pour lui-même. Nous y reviendrons au chapitre 3. C'est l'inverse. Cet arbre représente, symboliquement sans doute, la limite à ne pas franchir pour rester humain et libre. Pas pour devenir encore plus libre ou plus qu'un être humain. Ça, c'est ce que le serpent, dans son discours de mensonge, a réussi à nous faire croire. L'homme est une créature. Genèse chapitre 1. Une création de Dieu. Sa vie dépend donc de son créateur. Notre relation avec Dieu est asymétrique. Dieu est Dieu, il est notre créateur, et nous sommes ses créatures. Nous ne sommes pas sur un même pied d'égalité. Nous sommes son image, Genèse 1, 27. Nous le représentons sur terre. Si donc nous sommes son image, c'est que nous ne sommes pas l'original. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes humains et pas divins. Alors, si nous recevons cette identité et cette liberté dans la confiance vis-à-vis de Dieu, comme un cadeau, nous sommes heureux. Mais si nous revendiquons d'être plus que des humains, et si nous voulons définir nous-mêmes l'étendue de notre liberté, alors notre identité est abîmée et notre liberté se transforme en esclavage. C'est quand même paradoxal. En voulant être plus libre que ce que Dieu a donné, nous devenons des esclaves. Nous devenons des esclaves. Pourquoi ? Nous devenons esclaves de notre volonté d'être comme des dieux ou comme Dieu. Parce que nous essayons de rendre possible ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas et nous ne pourrons jamais être Dieu ou être des dieux. C'est une illusion, une utopie, un rêve de créatures rebelles à leur créateur. Le seul qui est et qui sera pour toujours à la fois homme et Dieu, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas un homme qui est devenu Dieu à force de courage et de bonnes œuvres. Il est Dieu qui s'est fait homme. C'est exactement l'inverse de ce qui a séduit nos premiers parents, qui ont voulu devenir des dieux. La connaissance du bien et du mal dont il est question ici, ce n'est pas simplement une information scolaire, comme on dit, il faut acquérir des connaissances. La traduction, interprétation de la dernière version du Semeur me paraît juste. L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise la volonté de déterminer soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous avez compris cela, vous avez compris ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et du coup ce qu'est le péché originel. Ce qui est interdit ici par Dieu, pour préserver l'identité et la liberté humaine, c'est l'autodétermination. C'est vouloir définir soi-même, sans Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça le péché originel. C'est quand l'homme n'accepte plus sa place de créature et veut être lui-même celui qui définit les règles du contrat de travail. C'est cette limite à ne pas franchir que l'arbre de la connaissance du bien et du mal indique à l'homme dans le jardin. Vous comprenez la place symbolique de ces deux arbres dans le jardin ? Alors, est-ce que c'était vraiment deux arbres ou est-ce que c'était plutôt une image ? Je ne sais pas. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est essentiel, c'est ce qu'il représente, ce qu'il signifie. Alors, aujourd'hui encore, d'une certaine manière, le choix nous est donné entre ces deux arbres, même si nous ne vivons pas aujourd'hui dans le jardin d'Éden. Dieu nous donne encore ce matin le choix entre une vie qui reconnaît l'autorité de Dieu, notre Créateur, et une vie qui conteste son autorité et qui veut se déterminer tout seul. Ah, on a la visite. C'est la liberté humaine. Quand nous sommes animés par ce désir d'autodétermination, qu'est-ce que nous faisons, nous, là, aujourd'hui ? Eh bien, nous reprenons à notre propre compte le péché de notre ancêtre Adam. Ce désir nous enferme alors sous l'autorité du diable, du serpent, on en parlera plus en détail au chapitre 3, parce que nous l'écoutons, lui, plutôt que Dieu. C'est ce qui fait que tout homme, tout être humain naît esclave d'un point de vue spirituel et a besoin d'un sauveur, d'un libérateur. Et lorsque nous devenons chrétiens, et si nous sommes chrétiens, nous qui sommes ici dans cette salle ce matin, ce désir d'être comme Dieu à sa place doit disparaître progressivement de nos mentalités parce que Christ nous en a délivrés. Une création de poste, un contrat de travail, et puis petite ligne en caractère gras en bas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça que je vois comme la petite ligne en bas du contrat. Cette petite ligne que le serpent va contester au chapitre 3 en disant « Mais non, vous ne mourrez pas du tout. » Pourtant, on a bien ici la même formule que tout à l'heure. « Manger, tu mangeras, c'est sûr, vas-y, je te l'ordonne. » C'est sûr et certain. Le jour où tu en manges, le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. Ça ne veut rien dire en français. Mais l'hébreu insiste pour dire c'est une certitude. Si tu brises le contrat, tu vas mourir, c'est sûr et certain. Le patron indique clairement ici les conséquences d'une éventuelle remise en cause du contrat. Alors on pourrait se demander, qu'est-ce que l'homme a compris? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui la mort à ce moment-là? Comment comprend-il ce que Dieu annonce comme une sanction? Quelle conscience a-t-il du mal et de la mort? Surtout dans ce lieu de délice, où comme nous l'avons vu un dimanche précédent, tout est bon et tout va bien. Ma compréhension est la suivante. L'être humain, ici dans le jardin d'Éden, l'homme, ne vit pas dans une sorte d'innocence naïve. Stupide, bêta. L'homme n'a pas encore fait l'expérience personnelle du mal et de la mort. Il est donc innocent dans ce sens-là. Mais de mon point de vue, il a forcément une certaine conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il lui suffit d'entendre la parole de Dieu pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien, c'est d'obéir à la parole de Dieu et de vivre selon les critères du contrat. Ce qui est mal, c'est de ne pas tenir compte de la parole de Dieu et de chercher à fixer soi-même les règles du contrat. Je crois que l'homme a conscience de cela, sans pour autant avoir goûté lui-même au mal. Vous comprenez? Je ferai un peu le parallèle, l'analogie avec Dieu lui-même. La Bible nous dit que Dieu est parfaitement bon et parfaitement saint. Il ne peut jamais être tenté par le mal. Et pourtant, nous vivons dans un monde où le mal a trouvé sa place d'une certaine manière. Comme une erreur, nous le verrons au chapitre 3, mais le mal est là, c'est une réalité. Comment est-ce possible? Dans un monde créé par un Dieu bon, parfaitement juste et parfaitement saint, il y a quelque chose qui cloche, qui ne s'explique pas. Et d'ailleurs, Dieu ne nous l'explique pas. Tout ce qu'il nous dit, c'est que ce mal doit être combattu et vaincu. C'est ce que Dieu est en train de faire dans notre histoire. Si on fait le parallèle, donc, Dieu qui est parfaitement bon, parfaitement juste et parfaitement saint, sait bien ce qui est mal et ce qui est bien. Et pourtant, il ne l'a jamais expérimenté lui-même, le mal, vous voyez ? Si l'homme était un simple naïf, sans conscience du bien et du mal, comment Dieu pourrait-il justifier de lui demander des comptes d'un point de vue moral? Ça n'aurait pas de sens. C'est pourquoi je pense que, dès l'origine, Dieu a créé l'homme en tant qu'être moral. Et donc, l'homme sait pertinemment qu'il désobéit à Dieu lorsqu'il accepte de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme est un être responsable et donc moral. Il ne vit pas seulement d'amour et d'eau fraîche, il travaille, et ce travail implique une responsabilité dont il doit rendre compte. La responsabilité humaine a toujours un aspect moral, toujours. Et l'homme rend compte de l'usage de cette responsabilité à celui qu'il représente sur terre. Dans votre activité professionnelle, le contrat qui vous lie à votre employeur a un aspect moral. Ce n'est pas juste une description de poste pour occuper notre temps à faire quelque chose. Mais il y a quelque chose, un travail qui est attendu de nous. Si vous faites bien votre travail, si vous faites bien ce qui est attendu de vous, vous en récoltez les honneurs. Peut-être pas toujours autant que vous l'aimeriez, mais... Mais si vous ne faites pas votre travail, ou si vous le faites mal, vous en subissez les conséquences. Nous avons des comptes à rendre. Eh bien, je crois que c'est aussi le cas pour l'homme ici dans le jardin. Il est engagé par un contrat dont Dieu fixe les termes. La liberté d'action de l'homme est donc conditionnée par les termes de ce contrat. L'homme jouit d'une très grande liberté, mange de tous les arbres du jardin. Vas-y. Mais il ne fait pas tout ce qu'il veut. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quant à savoir ce que l'homme a compris de la mort, je reviendrai simplement à ce que nous avons déjà lu au chapitre 1 et au verset 28. Dieu les bénit, l'homme et la femme, en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Lorsque Dieu donne à l'homme et à la femme cet ordre de se rendre maître de la création, de la terre, cela passe notamment, nous l'avions vu, par la maîtrise des techniques de pêche et d'élevage. Si donc l'être humain pêche des poissons, c'est pour les manger. Et s'il les domestique, c'est, entre autres, pour les manger. Je pense donc que l'homme aurait, dès le départ, là aussi, une certaine conscience de la mort, puisque la mort animale fait potentiellement partie de la vie dans le jardin d'Éden. Et donc, quand Dieu dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, l'homme sait ce que ça veut dire, mourir, même s'il n'en a pas encore fait l'expérience personnelle. Vous voyez ? Tant que l'homme reste dans le cadre fixé par Dieu, il jouit de la vie en abondance, éternelle. Il est amortel, comme je l'avais dit la dernière fois. Il est fragile, c'est une créature, mais sa relation, sa communion avec Dieu le garde en vie. Il ne peut donc pas mourir. Mais à partir du moment où il sort de ce cadre, en voulant se déterminer lui-même, il perd de fait l'accès à l'arbre de vie. Il devient donc mortel sur un plan physique, il retourne à la poussière, on le verra au chapitre 3, et aussi sur un plan moral, spirituel, l'âme. Il n'y a plus de communion avec le Créateur, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas juste et ce qui doit être réparé. Cette réparation, c'est toute la suite de l'histoire biblique. Alors pour terminer, j'aimerais attirer votre attention encore sur un élément important du texte. Nous avons parlé d'une création de poste, d'un contrat de travail, de la petite clause en petit caractère en bas, si tu en manges, tu mourras. J'aimerais enfin parler de ce poste comme étant un poste pour homme, masculin. L'homme de Genèse chapitre 2, celui que Dieu place dans le jardin pour le cultiver et le garder, c'est Adam dans nos Bibles, dans nos traductions. Adam en hébreu, c'est le nom général, générique, pour parler de l'être humain. Et on l'a transcrit Adam. On a recopié, si vous voulez, phonétiquement le mot hébreu. Et c'est avec Adam, et non avec Ève, que Dieu signe ce contrat de travail, ce contrat relationnel, qui prendra par la suite la forme d'une alliance du suzerain avec son vassal. C'est à lui, l'Adam, l'homme, qu'est donné l'ordre de profiter de tous les arbres du jardin, Il y a du vent, c'est Saint-Esprit qui nous visite. Et c'est aussi à lui, Adam, qu'est donné l'ordre de ne pas déterminer lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. De ne pas prendre la place de Dieu. L'annonce qui est faite là par Dieu pour le poste à pourvoir ne mentionne pas H/F, homme-femme. Il n'y a que H, homme. C'est la formule obligatoire de nos jours, homme-femme. Si on ne la met pas, on peut être poursuivi pour discrimination à l'embauche. N'est-ce pas ? Eh bien, à ce moment du récit, il n'y a pas de F. Parce que la femme n'est pas encore façonnée. C'est pour ça que c'est important de lire tout le passage. C'est l'homme qui est embauché, si vous me permettez l'expression, et donc responsable du jardin et de ce qui s'y passe. Et notez déjà, ça c'est pour préparer Genèse chapitre 3, que c'est à l'homme et non à la femme que Dieu demandera compte de sa conduite après la faute. Où es-tu ? Dit-il à Adam. Et aussi, as-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? À Adam, pas à Ève. C'est Adam qui est responsable pour le couple et pour ce qui se passe dans le jardin. Alors nous en reparlerons aussi la prochaine fois, lorsque nous aborderons la suite du chapitre 2, ces relations horizontales, notamment la relation homme-femme. Mais notons déjà ceci. Nous les hommes, messieurs, je m'adresse plus particulièrement à nous là, cette responsabilité particulière que Dieu donne de servir et protéger, et que Dieu attend de la part d'Adam, c'est aussi notre responsabilité aujourd'hui. C'est exactement ce que Jésus, homme masculin, est venu faire sur terre. Servir et prendre soin, en particulier des plus faibles. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui dans son règne céleste. Il sert l'Église et il protège ceux qui lui appartiennent. Alors, pour les hommes parmi nous qui sont mariés, nous devrions servir et protéger nos épouses. C'est dans notre contrat depuis la création. De manière plus large, nous devrions tous et toutes être des modèles de service et de soins pour notre entourage, et en particulier pour l'Église. Et pour nous, qui sommes chrétiens et hommes masculins, il faut que nos sœurs en Christ sachent qu'elles peuvent compter sur notre esprit de service et sur notre protection. Nous ne sommes pas d'assez bons modèles. Et en ce sens, nous imitons Adam et son échec. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé un nouvel Adam. Je vous invite à relire à la maison le chapitre 5 de la lettre aux Romains. Je lis juste un verset, Romains 5, verset 19. « En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, Christ, beaucoup seront rendus justes. » Dans ce passage, l'apôtre Paul nous explique que le contrat passé avec Adam a échoué. Adam s'est montré incapable d'en honorer pleinement les termes. Un petit peu comme on le disait en introduction, le poste commencera par un CDD à plein temps, il sera poursuivi par un CDI. Si la personne fait l'affaire, eh bien Adam, malheureusement, n'a pas fait l'affaire. Résultat, il s'est fait virer, et depuis, ses descendants, nous y compris, naissent tous avec un contrat précaire. C'est ce que dit Paul au chapitre 3 des Romains, tous ont péché. Un d'entre nous, à un moment ou un autre, reprend à son compte le péché d'Adam pour lui-même, pour dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, c'est moi qui fixe les règles du contrat. Adam avait un contrat en CDI, mais il l'a transformé en CDD pour être soi-disant libre d'être son propre patron. Malheureusement, il a échoué. Alors, Dieu a établi un nouveau contrat. Et ce contrat, il l'a passé avec un nouvel Adam, son propre fils, qui lui est le modèle de l'homme qui accomplit parfaitement la volonté du Créateur. Alors, messieurs, si nous échouons à servir Dieu et notre prochain, nos épouses, si nous échouons à être des hommes dignes de confiance, et si nous tous et toutes, chrétiens et chrétiennes, nous échouons aussi à servir Dieu, tournons-le vers celui qui est l'homme et le serviteur parfait. Puisons nos forces de cette semaine dans l'exemple de son amour et de sa justice, afin de le représenter là où il nous place, en famille, dans notre quartier ou au travail. Je vous invite à prier.